Bonjour mes chers sœurs et frères. Vous savez, ma voix a été rétablie à Paris, j'ai perdu ma voix, mais après le serment, heureusement. Je suis très content d'être ici parmi vous, encore une fois. Le temps passe vite. Je crois que c'était 2 ans, il y a 2 ans, je suis passé par là la dernière fois, ou une année et demie, je ne me souviens plus. Mais le fait, je suis très heureux de vous revoir, chères sœurs et frères. Et malgré le fait que je suis tombé malade, là, il y a quelqu'un qui me toussait dessus dans tout le vol des îles Canaries où je vais toujours visiter les frères qu'on a là-bas, jusqu'à Madrid. Donc, après, je suis allé au Portugal et puis en arrivant à Paris, je sentais déjà que quelque chose commençait. Heureusement, j'ai pu donner les serments et puis tous les objectifs du voyage ont été accomplis. Malgré le fait que j'étais avec un rhume terrible, mal à la gorge, congestion, mais pour ceux qui aiment Dieu, tout marche pour de bons résultats, n'est-ce pas? Me voilà encore ici avec vous, très heureux d'être ici, et attendez voir, bon, je ne savais pas qu'on m'avait mis cet appareil là, je viens de le voir, aujourd'hui avec la technologie on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver? Bon, chers sœurs et frères, je vous apporte aussi des salutations de l'œuvre espagnole, du Mexique jusqu'à l'Argentine. Au mois de mai, pour la première fois, on a eu une conférence ministérielle de tous les ministres de l'œuvre espagnole à Medellín, Colombie, une ville qui était bien connue pour d'autres raisons. Cette fois-ci, elle nous aide à, si vous voulez, nous organiser pour bien proclamer la parole de Dieu dans tout le monde espagnol. Au-delà des 400 millions de personnes qui parlent cette langue, un peu plus que le français, et donc il faut faire tout ce qu'on peut pour accomplir les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller dans tous les peuples, faire des disciples et puis proclamer l'évangile comme un témoignage au monde entier. Vous allez me pardonner aujourd'hui, je ne suis pas en pleine forme parce que à cause de la fatigue, de la maladie et puis les voyages, ça nous affecte. On est des êtres encore physiques, mais avec l'aide de Dieu, on ira de l'avant. Aujourd'hui, mes chers sœurs et frères, ce que je voulais partager avec vous, c'est essayer d'amplifier un peu les paroles sublimes de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a prononcées. Ce sont des choses que vous savez déjà, que vous connaissez, mais qu'il est important de revoir parce qu'il y a toujours la parole de Dieu est vivante. On ne peut jamais épuiser. Je vous assure, vous pouvez lire le livre des Psaumes qui est l'un de mes livres favoris dans toute la Bible. En faisant des calculs, je l'ai lu au moins 120 fois déjà. Parce que toujours, tous les jours, et d'ailleurs, je dois au livre des psaumes le fait que je n'ai pas perdu cette langue dans laquelle je peux vous parler aujourd'hui. Parce que je le lisais toujours en français, à haute voix, tous les matins. Et puis mon fils, parfois il écoutait un son étrange. Il venait dans la chambre et papa, qu'est-ce qu'il se passe ici? Quel est ce son que vous prononcez? C'était les sons de la langue française, dont la prononciation est vraiment nuancée et difficile. Donc, mes chers amis, nous allons voir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les derniers versets. On commence à lire Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Voici des paroles merveilleuses, et comme je vous ai dit, on peut lire un livre 100 fois, une centaine de fois, et comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu est vivante. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Il y a toujours de nouvelles applications. Il y a toujours une lumière merveilleuse que Dieu nous montre encore sur la profondeur et la richesse de sa parole. Donc, on commence à lire ici, mes chers sœurs et frères, au chapitre 11, verset 28 de l'évangile de Matthieu. « Venez à moi !» Chaque parole ici est extrêmement importante. Nous allons voir pourquoi. Pourquoi dit-il « Venez à moi ». On va voir pourquoi. Souvent, mes amis, quand on est dans l'angoisse, quand on est dans des situations difficiles, dans la douleur, dans la souffrance, parfois on attend trop long pour aller chercher Dieu. Nous allons voir aujourd'hui qu'il faut développer une espèce de réflexe spirituel de ne pas perdre du temps et de l'énergie et d'aller toujours chercher ce refuge. Ce mot-là se répète tout au long du livre des Psaumes, un refuge. Dieu est un refuge, le Christ est un refuge. Et David, dans sa vie, à cause de la persécution qu'il a subie, peut-être pendant 10 ans, vous savez, le numéro 10, c'est un numéro d'épreuve, de jugement. Et c'est pourquoi il y a 10 commandements par lesquels on est jugé, et c'est le numéro 10. L'apôtre Jacques le dit clairement dans son épître, on sera jugé d'après la loi de la liberté. Et la loi de la liberté, c'est les 10 commandements, hein, parce que quand on garde les 10 commandements, on est libre du péché. On est libre d'Égypte, d'où Dieu nous a sortis par le pouvoir de sa parole, où on était esclave du péché, comme le peuple d'Israël l'était physiquement et spirituellement. Nous l'étions, nous autres, même de nos jours, on était esclaves du péché et Dieu nous a libérés. Mais il veut qu'une fois qu'on est libéré de l'esclavage du péché, il veut que nous nous soumettions au joug qui n'est pas pesant, qui n'est pas lourd de Jésus-Christ. Et voici comment il va nous enseigner ce merveilleux chemin de vie. Venez à moi. Voilà la première phrase, et on va l'amplifier dans la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement de richesses dans chacune de ces phrases, de ces paroles. Vous allez voir, on ne pourra pas les épuiser aujourd'hui, on en verra quelques exemples. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous pose la question, qui n'est pas fatigué et chargé ou stressé de nos jours? On a dit... Souvent, le 20e siècle a été le siècle du stress, de l'angoisse, n'est-ce pas? Et puis le 21 n'en est pas moins. C'est une continuation, peut-être augmentée, de ce phénomène de l'ère moderne. Le stress, l'angoisse qui nous assaut, ce qui vient chez nous souvent. Donc, il faut bien comprendre ce que le Christ a voulu nous transmettre par ses paroles. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. C'est une invitation ouverte de Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous décharger du fardeau du péché, mais aussi des douleurs, de l'angoisse, pour guérir les cœurs brisés, comme il l'a lu personnellement à la synagogue à Nazareth dans sa première visite après le commencement de son ministère. Il a dit que Dieu l'avait envoyé guérir des cœurs brisés. Et voilà une invitation sublime que nous devons bien faire attention et prendre sérieusement, parce que c'est quelque chose de merveilleux, comme nous allons le voir à continuation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous dites, je crois qu'il n'y a personne dans cette salle qui ne puisse... dire « je suis pas fatigué » ou « je suis pas chargé ». Il y a toujours des épreuves dans la vie. Quand je vois la fin d'une épreuve que Dieu nous envoie toujours pour nous perfectionner, c'est le but d'épreuve, je me dis toujours « prépare-toi pour la prochaine ». Ça va pas arrêter jusqu'au retour du Christ quand l'épouse sera prête. On n'est pas encore prêt, chers amis. Donc, il se sert de la souffrance, comme je crois qu'on vous l'a traduit dans le sermon que j'avais donné dans les temps. M. Brochu a fait une traduction, c'est comme quand on nous met dans les creusets pour la purification du métal. Et si vous vous souvenez de l'histoire, cette dame qui était allée chez celui qui travaille avec des métaux précieux, avec de l'argent, l'orfèvre. Elle est allée parce qu'ils avaient lu dans le livre de Malachie et dans le livre de Zacharie et dans les psaumes 66, que Dieu nous passe par les creuseux, par les creusets, par le feu. Il nous éprouve comme l'argent au creuset, et après il nous sort à l'abondance. Mais une fois qu'on est là dans le four, chers amis, ça fait mal. Et personne ne peut échapper à des épreuves. Même ceux qui ne sont pas appelés aujourd'hui à cette connaissance, ils souffrent. Ils souffrent les conséquences du péché. Comme l'apôtre Paul l'a dit d'une façon magistrale, qui est incompréhensible pour le monde, il a dit, il les a tous enfermés dans la désobéissance pour avoir miséricorde de tous. C'est-à-dire tous les gens qui sont morts sans avoir connu ce chemin de vie que Dieu nous a révélé à nous autres, qui est l'une des choses la plus précieuses au monde, c'est de savoir la vérité. Ça doit être un trésor comme une perle d'un grand prix, comme un trésor qu'on doit vraiment garder, éveiller, à les conserver. Donc, ces gens-là, quand ils vont se réveiller dans la deuxième résurrection devant les trônes blancs, où ils verront le Christ face à face, ils comprendront pourquoi il les a enfermés dans la désobéissance. Quand Adam et Ève étaient au paradis, ils ne savaient pas les conséquences du péché. Tout allait bien pour eux. C'était merveilleux, c'était idéal. Donc, Dieu, mais ça c'est un autre sujet, mais je vous le dis quand même, parce qu'on est fatigué et chargé à cause de ça. Ça fait partie du sujet quand même. Ce que Dieu a fait, je crois que le diable a cru, moi, j'ai gâché le plan de Dieu. Voilà, l'homme a péché. Ça y est, mais il ne savait pas que Dieu l'avait embauché à travailler à plein temps pour lui pour faire triompher son plan. Je crois que c'est l'amertume, la frustration la plus grande du diable, que malgré tout le mal qu'il fait, tout ce qu'il fait, ce n'est que travailler pour montrer aux gens quels sont les fruits de son chemin, et quand ils vont se réveiller au jugement du trône blanc, les gens vont savoir quand le Christ aura restauré la terre entière. Quand il aura restauré, ça sera un paradis de nouveau, plein d'arbres fruitiers partout pour nourrir les multitudes, peut-être 40 000 millions de personnes qui vont venir à la vie tout d'un coup. Ils vont comparer ce qu'ils ont vécu. Et cette fois-ci, ils se seront déjà brûlés les doigts. Il n'y aura pas d'excuse alors quand il leur montrera la paix, l'ordre, l'écologie parfaitement restaurée. Les déserts auront disparu. Il leur montrera les résultats du chemin de vie qu'il voulait pour nous dès le début. Et le voilà qui viennent en ayant expérimenté les conséquences du péché. C'est pourquoi, à la fin des 100 ans, il y a un lac de feu, parce qu'il n'y a plus d'excuses pour quelqu'un qui a vécu dans le monde de Satan et a expérimenté ce monde jusqu'à l'extrême. Et maintenant, je vous dis, mes amis, on arrive à l'extrême, presque. Et c'est quand les combles de l'iniquité sera sur ce monde que le Christ va revenir. Comme toutes les époques qui se sont écoulées, c'est quand ils sont arrivés au comble avant le déluge. C'est ce qui est arrivé et Dieu a dit, ça y est, c'est fini. À Sodome et Gomorre, on arrive presque là. Il a dit, je veux voir s'ils ont arrivé au comble. Et oui, ils étaient arrivés au comble, c'était la fin de Sodome et de Gomorre. Et ça a toujours été comme ça, tout au cours de l'histoire, avec toutes les civilisations qui ont existé jusqu'à présent. Donc, voilà pourquoi Dieu permet la souffrance, c'est pour les triomphes de son plan. Ça sera un triomphe merveilleux. Et souvenez-vous, au jour des trônes blancs, le diable ne sera pas là. Il aura déjà fait sa tâche, il sera dans les lacs de feu. Et tous ces gens-là qui ont été trompés, séduits par lui, seront devant Jésus-Christ, saint. Personne pour les séduire et les tromper. Ils verront la vérité. Ils auront vécu l'expérience de l'arbre de la science du bien et du mal. Et maintenant, Dieu va leur donner l'expérience de l'arbre de la vie. Du coup, il ouvre les livres, et il ouvre un autre livre, qui est le livre de la vie, où Dieu écrit les noms de ceux à qui il donne la semence de la vie éternelle. C'est ça le livre de la vie. Nous, on est déjà écrit là. Je n'endure pas jusqu'à la fin, Dieu. Il nous met de côté, il appelle quelqu'un pour le mettre dans ce livre. Mais enfin, il y a tellement de sujets qui me viennent à la tête. Excusez-moi, mais on est là jusqu'à 6 heures du soir, donc il n'y a pas de problème. Voilà, mes chers sœurs et frères. Donc, je continue et je répète les paroles du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On est fatigué du chemin qu'on a suivi. Je n'ai pas fini la parabole du creuset, mais vous vous souvenez, cette parabole, elle est merveilleuse. Je la finis maintenant. C'était des dames qui faisaient une étude biblique sur le livre de Malachie. Elles ont trouvé que Dieu va s'asseoir, il va purifier les enfants de Lévi, et puis il le dit aussi au sujet d'Israël, dans le livre de Zacharie, chapitre 14, il va les purifier comme l'orfèvre purifie l'argent. Et puis les dames, se sont mis d'accord, elles ont envoyé une des dames aller chez un orfèvre qui vivait dans le village pour lui demander comment est-ce qu'un orfèvre purifiait l'argent ou l'or. Mais la dame est allée, il lui a posé la question, « Monsieur, comment est-ce que vous faites ?» Il dit, « Madame, il faut que je m'assoie juste, il faut que mes yeux soient tout le temps sur le métal, sur l'argent. » Parce que si le feu devient trop chaud, la chaleur est trop, ça va se perdre, ça va s'abîmer. Il faut que mes yeux soient toujours fixés sur le métal. Parce que si ça se prolonge trop aussi, ça peut s'abîmer. Il faut que je sois complètement attentif. Donc ça nous revient à l'esprit, les paroles écrites pour nous. Dieu ne nous enverra jamais une épreuve qu'on ne puisse pas passer. Il veille sur nous pour que l'épreuve ne soit plus qu'on ne peut résister. Il va toujours nous donner la force et la façon de surmonter les épreuves. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Souvenez-vous de ça. Ça peut vous sauver la vie éternelle. Quand une épreuve, peut-être très grande, viendra sur nous, dans un futur peut-être pas trop loin, vous allez voir la prochaine revue dans la couverture. Il y a du feu tombant du ciel. La question, c'est, du feu tombant du ciel, serez-vous séduit? Y a-t-il une clé absolue pour discerner si un miracle vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Je ne veux pas vous donner la réponse, mais il faut la savoir. C'est très important. Vous pouvez demander des personnes et vous vous donner des réponses différentes, mais il y a une clé absolue pour discerner. Il n'y a que les élus qui peuvent le faire. Donc, je vous laisse la curiosité pour que vous lisiez la prochaine revue, mes chères sœurs et frères. Alors, elle était très impressionnée des paroles de l'orfèvre, et puis il s'en va, elle était juste sur le point de sortir, et puis il y a quelque chose qui lui vient à l'esprit, elle se tourne, elle voit chez l'orfèvre et dit, « Monsieur, mais comment savez-vous quand le métal est prêt ?» Il m'a dit, « Madame, quand je vois mon visage reflété sur le métal, je sais qu'il est prêt. » Voilà ce que Dieu fait avec nous. Quand une épreuve a accompli le but que Dieu veut de perfectionner notre caractère et qu'il peut nous transmettre son caractère, comme le Christ a dit, « Soyez-vous parfaits comme votre Père, qui est aussi le parfait. » Quand il y a un trait du caractère que Dieu a réussi à nous transmettre par les épreuves, par la souffrance, par l'endurance, par la persévérance, c'est la fin de l'épreuve. Il nous sort du creuset et on éprouve le paisible effet de la justice. C'est merveilleux, chers amis. Dieu ne quitte jamais ses yeux de ceux qu'il a appelés. On peut avoir cette confiance. Donc, continue, sinon on ne va pas finir là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. Prenez mon joug sur vous. Ça, c'est important de savoir. Vous pouvez demander à une personne, ici, je peux vous poser des questions. Qu'est-ce que le joug de Dieu? Il faut toujours laisser que la Bible s'interprète d'elle-même. On peut avoir beaucoup d'idées. Si, qu'est-ce que le joug? Qu'est-ce que le Christ a voulu dire par là? On va le voir dans un moment. Peut-être vous le savez, bien sûr. Peut-être la plupart d'entre vous, mais il est important de trouver l'endroit où Dieu lui-même, par sa parole, nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Le Christ était en train de parler de quelque chose de très concret quand il parlait du joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Là, la traduction, Monsieur Segond, vraiment n'est pas assez bonne, je m'excuse. Il faut toujours avoir multitude de conseillers. Moi, je consulte toujours 3, 4 ou 5 versions de la Bible dans de différentes langues. Et c'est beaucoup, ça serait beaucoup mieux traduit, si vous voulez faire une petite note. Le Christ, une meilleure traduction de ses paroles, c'est « Apprenez de moi ». Apprenez de moi. Pas simplement à recevoir mes instructions. Il se met comme l'exemple suprême. Lui-même, il est venu nous donner un exemple. Donc, au lieu de dire « recevez mes instructions », il faudrait dire « apprenez de moi ». Il est l'exemple vivant. « Car je suis », voilà, ça prouve ce que je viens de vous dire, il parle de lui-même, « je suis doux et humble de cœur ». Humble, doux et humble, voilà la parole par laquelle l'univers a été fait, mes amis. Les scientistes, les scientifiques, ils parlent du Big Bang. C'était la parole de Dieu qui s'est produite dans l'infinité, dans l'infini de l'espace. Quand sa parole a prononcé que les cieux soient faits, il a fait la terre et les cieux au commencement. Et le scientifique, comme un aveugle avec un bâton qui touche, ils arrivent à une conclusion qu'ils trouvent la plus logique. Il faut qu'il y ait eu un commencement. Et nous voilà dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a pas été fait. Enfin, celui qui, l'auteur, bien sûr, comme instrument du Père, c'est le Verbe, instrument des dieux. À l'époque, il n'était pas encore père et fils. Je crois que vous comprenez ça. Il est devenu son fils quand il a été engendré dans les seins de la Vierge Marie par la semence du Saint-Esprit. Le dogme principal des religions qui s'appellent chrétiennes est la conspiration la plus grande contre le plan suprême des dieux, d'engendrer des enfants pour les ramener à son niveau d'existence divine et pour leur donner l'univers comme héritage éternel. Ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire que le Christ a été engendré par le Saint-Esprit, ils ne comprennent pas le plan des dieux. Si le Saint-Esprit était une personne, et c'est lui qui a engendré le Christ, ce serait son Père. Il n'a jamais appelé le Saint-Esprit son Père. Le Saint-Esprit est la semence du Père par laquelle il engendre des enfants. C'est le mystère le plus profond, et pourtant, Dieu a créé la famille humaine comme un reflet de ce qu'il avait en tête avant que le temps ne commence, avant le Big Bang, avant la création de l'univers, avant que le temps, parce que le temps, on le compte par les heures, n'est-ce pas? Le jour, la Terre qui tourne sur son axe, et puis la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est les mois, et puis la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est les années. Avant que ça n'existe, Dieu avait déjà en tête de se reproduire lui-même par une semence de ses entrailles, qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est l'une des vérités les plus profondes que Dieu nous a révélées dans l'Église des dieux et qui a été mise absolument de façon cristalline et pure par l'intermédiaire de M. Armstrong. Je vous donnerai du repos. Je continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça veut dire apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur. Voilà la parole qui a fait le Big Bang, qui a produit l'univers. Elle est humble du cœur. Elle s'est humiliée jusqu'à la mort, et la mort de croix. pour nous enseigner. Son chemin était complètement différent du chemin du diable, qui était l'exaltation de soi-même. Il s'est abaissé à l'extrême pour nous montrer quel est le chemin de Dieu. Ceux qui s'exaltent seront abaissés. Ceux qui s'abaissent seront exaltés. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, comme un enfant, et qu'il serve tout le monde, sans une conscience de que je suis important. Ça n'existait pas dans le plan de Dieu. Il dit, si on ne devient pas comme des enfants, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas avoir conscience de notre propre importance, chers sœurs et frères. Il ne faut pas se soucier d'être important. Se soucier d'imiter le Christ. Et Dieu, il va exalter ce qu'il veut. Il va les mettre où il veut. Et ça sera la joie. On sera heureux. Comme David le dit dans le psaume 16, l'héritage qui m'est échu est merveilleux. Donc, on continue. Car je suis doux et humble de cœur. Et souvenez-vous, si on ne reçoit pas la correction, c'est le signe scientifique, technologique, de que nous sommes orgueilleux. Ne corrige pas une personne orgueilleuse de peur que ne vous haïsse, que ne vous hait pas. Tu corriges l'humble, il va vous aimer. Parce que son désir, c'est la transformation de son caractère pour être doux et humble de cœur, comme le Christ. Il va vous remercier. Pas l'orgueilleux, il n'a pas encore compris le chemin de Dieu, le chemin du Christ. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà, on la trouve, la paix. L'humilité produit la paix, la douceur. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous allons voir que ça va s'interpréter dans un moment. C'est très facile pour vous. Vous le devinez déjà peut-être. Mais nous allons voir quelques exemples des personnes que Dieu nous donne dans la Bible qui ont appris à aller chez Dieu dans leur angoisse, quand ils sont chargés de fatigue, de douleur, de peine, aller épancher leur cœur, leur âme devant Dieu n'est pas... Vous savez, la capacité de l'être humain pour accumuler de l'angoisse et de la douleur est très petite. On est très limité. On n'a qu'un seul corps. Et notre capacité d'endurer ou d'accumuler, si vous voulez, l'angoisse et la douleur est très limitée. C'est pourquoi l'être humain cherche toujours une façon de s'échapper. Ou par les drogues, ou par l'alcool. Ou pourquoi que ce soit, mais on n'arrive pas à endurer. Vous savez ce que Freud avait découvert, qui... Ce n'est pas sa découverte, nous allons voir. Ça existe pour nous depuis des milliers d'années avant Freud. Il a vraiment découvert une chose dans son milieu qui était bien connue des enfants de Dieu, de ceux qui ont cherché Dieu pour pencher leur cœur en sa présence. Il savait que si quelqu'un venait dans son divan, il le laissait parler. Écoute, n'ayez pas peur. Allez, je vous écoute, sans interruption. Le seul fait qu'il y ait quelqu'un qui écoutait cette personne allégeait son mal. Et vous le savez, quand on est angoissé, on va chercher un ami qu'on aime, en qui on a de la confiance, et puis on épanche notre cœur. On lui dit nos angoisses, nos souffrances, nos frustrations, et on se sent allégé. Ce que le Christ, il veut vous démontrer, il veut dire, c'est à moi que tu dois venir tout d'abord. Pour ça, il faut qu'il soit réel pour nous. C'est pourquoi il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est dans le secret, il va t'écouter. Il faut pas perdre du temps. Souvent, on va chez Dieu quand on est au bout, quand on peut plus endurer. C'est ce que Dieu veut nous enseigner, le Christ est en train de nous dire, et nous allons le voir, David l'a compris, nous allons le voir, c'est ne perdez pas de temps, venez chez moi. N'attendez à que vous ayez une ulcère à l'estomac, ou que vous avez une maladie de cœur, ou du cœur, parce que c'est ce qui arrive. Avec les stress, c'est ce que ça produit, parce que l'être humain ne peut pas héberger trop de stress, on est très limité. Alors, à partir d'un moment, ça commence à causer des conséquences dans les corps humains. On ne peut pas l'endurer. Donc, le psychiatre, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, la personne éprouve qu'elle est allégée de sa douleur, mais il lui donne des drogues pour qu'il ne se rende pas compte exactement que sa douleur et la cause de son problème n'est pas résolue. Et les drogues deviennent de plus en plus fortes au fur et à mesure que l'angoisse augmente. Et le Christ a dit, venez chez moi, je vous donnerai du repos. Je te donnerai la solution du problème. Voilà ce qu'on nous offre. Le monde n'a pas ça. Mais je me pose la question, est-ce que Dieu est vraiment réel pour nous? Est-il vraiment réel que nous ayons avec une douleur, avec une angoisse, dans nos petites chambres, et nous parlons et nous savons qu'il est là, qu'il nous écoute, qu'il est réel, et ne pas attendre jusqu'à ce qu'on est poussé par des circonstances qu'on ne peut plus endurer? Nous allons voir le cas, un exemple très beau que vous tous connaissez, dans le chapitre 1, Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 1. Vous avez encore des petits trucs qui restent là de mon rhume. Au moins, je peux ne pas parler trop fort. Et pour vous, chers sœurs et frères, ne pas insulter vos oreilles. Donc, nous allons lire simplement. Voici un exemple de ce que le Christ veut dire quand il dit « Venez à moi quand vous êtes fatigué et chargé ». C'est un exemple sublime, très beau, plein d'inspiration. C'est une femme dont Dieu se sert pour nous donner cette leçon. Parce que, bien sûr, il y a cette combinaison d'émotions et que, enfin, David, il a expérimenté la même chose, mais c'est merveilleux comment Dieu, il se sert des exemples féminins pour nous enseigner des leçons profondes dans sa parole. Donc, on lit ensemble, simplement. Il y avait un homme des Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Elihu, fils de Tohu, je ne sais pas si je prononce correctement, fils de Tsuf ou Suf Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Souvenez-vous, pour une femme être stérile, surtout à cette époque, c'était un affront. C'était quelque chose de... Souvenez-vous que Rachel a dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Parce qu'il y avait Léa qui avait des enfants et puis l'autre n'en avait pas. Aujourd'hui, les femmes cherchent à ne pas avoir d'enfants. À cette époque-là, c'était la plus grande des choses. Et Dieu l'a mis dans leur esprit parce qu'il était en train de se reproduire lui-même, comme il l'est encore aujourd'hui. Vous vous souvenez, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, comme il est écrit dans le livre de Luc, elle s'est cachée quand elle a vu qu'elle était enceinte miraculeusement. Soit si je trouve cette écriture pour que vous voyez la magnitude de la douleur de Anne, au fur et à mesure que nous continuons, je trouve que Luc chapitre 1 verset 25. Luc chapitre 1 verset 25, il dit: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Lisons à partir du verset 23 pour avoir le contexte. L'ange avait dit à Zacharie, tu vas avoir un enfant dans ta vieillesse et ta femme qui est stérile va te donner un enfant. Lorsque ses jours de service furent écoulés, c'est Luc 1, 23. Il s'en alla chez lui, Zacharie. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » C'était une honte pour une femme. On considérait une malédiction de la part des dieux de ne pas avoir d'enfant. Voilà donc la souffrance de Anne, sa frustration, non pas le fait, comme Élisabeth, que c'était un opprobre, mais c'est un effet augmenté par la conduite de Pénina, comme nous allons le voir. C'était un fardeau très lourd. Elle était fatiguée et chargée. Continuons. Je continue, livre 1er de Samuel, chapitre 1, verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Voyez ? C'est pourquoi la lecture de la Bible nous augmente la foi. On voit que Dieu est présent en toutes choses. Aujourd'hui, on ne dirait pas qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle a été rendue stérile par l'Éternel. Mais ça dépend de Dieu. Souvent, des dames comme ça ont été ointes, et puis commencent à avoir des enfants. Et parfois même de jumeaux. Ça commence à venir. N'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui décide plus de choses que nous ne croyons dans notre vie. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Souvenez-vous, c'était déjà un opprobre. Et puis l'autre, elle ajoutait encore, parce qu'elle était jalouse, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc on se sentait que c'était un complexe de culpabilité ou quelque chose. C'était douloureux. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Eli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Venez à moi. » Est-ce que le Christ, c'est la même chose? Elle est allée chez l'Éternel. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous savez pourquoi? Samuel était à Nazareth, on dit. Il avait le cheveu long, il était consacré à l'Éternel comme Samson. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il était réel pour elle. Elle savait qu'il était là. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuait les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. » Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle est venue chez l'Éternel, comme le Christ nous dit encore la même invitation, « Venez à moi ». Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Comme c'est écrit dans le livre des Romains, parfois on ne sait pas s'exprimer devant Dieu en sa prière, mais l'Esprit produit des grondements ineffables, c'est-à-dire il y a quelque chose qui sort de l'angoisse, il dit c'est l'excès de l'angoisse qui m'a fait prier comme ça. Et Dieu, il comprend notre langage, même parfois si on n'articule pas clairement, il voit complètement l'état de notre être, de notre cœur. Car c'est par l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. » Il a parlé pour le Christ. Est-ce que le Christ a dit, « Venez chez moi, je vous donnerai du repos. » Voilà. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dans d'autres versions, il dit, son visage n'était plus triste. Ce que Freud a découvert des siècles plus tard, qui ne donnait pas vraiment la solution, c'est enseigné pour nous dans la parole de Dieu. Elle a versé toute son angoisse devant la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné du repos. Son visage n'était plus triste. Elle a laissé toute son angoisse devant la présence de Dieu. Il ne faut pas perdre du temps. Quand on est angoissé, cette même angoisse produit une prière plus puissante devant Dieu. Dieu veut que nous apprenions. Nous allons voir, si vous lisez le livre des psaumes, presque tous les psaumes sont un exemple de la même histoire. Quand David était persécuté, quand il se voyait au bord de la mort. Nous, on sait que la fin de l'histoire, mais il ne savait pas. Il ne savait pas s'il allait survivre cette épreuve ou non, s'il allait être vivant ou non. Et elle mangea et son visage ne fut plus le même, n'était plus triste. Voilà ce que le Christ a dit. Venez, je vous donnerai du repos. Apprenez à verser votre angoisse devant ma présence. Je serai là pour vous. Il faut que nous apprenions, ça produit une relation beaucoup plus intime avec notre Sauveur, avec notre Créateur. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Sa prière était tellement sincère. Elle est montée devant Dieu. Et c'est très intéressant que vous ne lisez pas un seul mot où elle se plaint de Pénina. C'est sa douleur de ne pas avoir un enfant, augmentée bien sûr par les paroles et la mortification que lui produisait Pénina, mais ne prie pas contre elle. Vous savez que c'est déjà un signe pour nous, quoique dans l'ancienne alliance, comme le Christ a dit, vous avez entendu dire, faut haïr vos ennemis, faut aimer vos amis, vos frères. Mais le Christ, il nous donne déjà ici un exemple. Nous allons voir que ce que nous devons faire quand on souffre à cause d'autrui, parce que on est dans ce monde et parfois les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre maison. Donc, on continue un peu. Donc, l'Éternel se souvint d'elle. Dans les cours de l'âne, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils que le nom qu'elle nomma Samuel, car elle dit-elle, j'ai le demandé à l'Éternel. Le nom de Samuel veut dire Dieu a exaucé. C'est le nom. Et vous savez que Dieu lui a donné plus d'enfants. Il est retourné, comme vous savez l'histoire, il a amené le petit enfant au sacrificateur Élie, et Samuel, peu après, a commencé à avoir des visions, il a eu de la communication avec Dieu. Et c'est intéressant que Dieu a béni cette femme parce qu'elle est allée chez les sacrificateurs. Et voyons par exemple ici, après, quand elle a sévré l'enfant, elle monte pour le laisser, comme elle l'avait promis à Dieu. Et voyons verset 24 du chapitre 1 de Samuel. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté ou consacré à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous voyez les cantiques d'Anne, absolument merveilleux, que Marie, la mère de Jésus, a aussi chanté, inspiré dans les paroles d'Anne. On n'ira pas là. Et puis, il y a un verset là, je vais vous dire là, où Dieu, vraiment, comme je vous dis, quand il répond, il répond. C'est merveilleux. Je vois, j'y trouve le verset. Il est quelque part ici, la bénédiction que Dieu lui a donnée. Ah oui, au verset 20, chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20 du premier livre de Samuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Voilà, il lui a donné cinq fois plus produit de cette prière intense qu'il avait faite devant l'Éternel. Nous allons voir quelques exemples dans le livre des psaumes, chers sœurs et frères. Il y en a beaucoup. Mais nous allons voir par exemple que souvent, David, inspiré par Dieu, il nous donne les circonstances dans lesquelles il se trouvait au moment où il a composé cette prière. C'est-à-dire qu'il ne perdait pas de temps. Une fois qu'il se trouvait dans une situation angoissante, il allait toujours chercher son refuge, que on dit Haza en hébreu, H-A-S-A-H. Ce mot-là veut dire refuge, ou ça veut dire aller fuir, se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et tout au long des psaumes, je n'ai pas le temps de vous donner toutes les citations, si vous trouvez dans une concordance, vous allez trouver que David répétait. C'est l'un des thèmes qui se répète tout au long. Il y en a beaucoup. C'est une belle étude. Je vous en ferai un jour. Des thèmes qui se répètent tout au long du livre des psaumes. C'est comme si Dieu voulait que nous assimilions certains principes fondamentaux de notre relation avec lui. Alors, par exemple ici, au chapitre 3 du livre des psaumes, nous voyons que c'est la parole inspirée de Dieu à partir du premier verset. Psaume de David, à l'occasion, et ça c'est inspiré, hein, c'est pas les éditeurs qui ont mis cette en-tête-là, c'est une partie du texte inspiré de Dieu. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Écoutez, mais Dieu le savait bien. Dieu lui avait déjà dit par l'intermédiaire du prophète Nathan qu'une des conséquences de son péché d'avoir commis l'adultère, d'avoir tué Uria, c'est que quelqu'un de sa maison se leverait contre lui. De toute façon, il savait, c'est une conséquence en péché qu'il avait commis, mais il s'était repenti. Mais il se sent absolument angoissé. Souvenez-vous que c'était un moment crucial. David fuyait et il disait, « Mon Dieu, il priait à Monta, le mont des Oliviers. » C'est important d'avoir tout le contexte. C'est pourquoi il est important de lire toute la Bible, mes chers sœurs et frères, pour avoir les contextes, pour avoir une compréhension plus profonde du message de Dieu pour nous, jour après jour. Vous savez que le grand conseiller David, c'était Ahithophel, et que son conseil était absolument fulminant. Il avait une sagesse pratique incroyable. Et en montant les monts des Oliviers, il disait, « Oh mon Dieu, que quelqu'un annule le conseil d'Ahithophel, parce que Absalom est rentré dans la ville, et puis son meilleur ami de David, je ne me souviens plus du nom, mais vous pouvez le trouver là, quand il fouillait devant son fils, il se trouve avec lui dans les monts des Oliviers. Il dit, je te suivrai. Il dit, non, va à Jérusalem et défais le conseil d'Ahithophel. Parce que David savait, si Absalom suit le conseil d'Ahithophel, je suis fini. Ahithophel lui a dit, quand Absalom est rentré et entré en Jérusalem avec sa rébellion, il lui a dit, va tout de suite à la poursuite de ton père. Attrape-le, fatigué. David était déjà assez âgé à cette époque-là, mais l'autre vient et il dit, écoute, non, fais pas ça. Ton père est un homme expert dans la guerre. Si tu te précipites, ça n'ira pas bien pour toi. Attends, réunis toute l'élite d'Israël, fais une armée grande et après tu vas à la poursuite de ton père. Comme ça, tu vas assurer ton règne. Alors, Dieu a fait que Absalom dise, d'accord, je crois qu'il a raison. Donc il n'a pas suivi le conseil d'Ahithophel. Et David, il était fatigué, et s'il n'arrivait pas à aller au-delà du Jourdain pour s'échapper de son fils, il était perdu. Hein. Parce qu'il aurait venu tout de suite après lui, il était affaibli, il n'avait pas une armée organisée, donc c'était le conseil, disons, correct, c'est ironique de le dire, mais c'était le plus efficace. Mais Dieu a intervenu. Et David se trouve dans cette angoisse parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Il a simplement prié. Donc vous voyez là, on voit le contexte. Pour lui, il savait si son fils vient après lui tout de suite, il va le rattraper avant qu'il ne croise le Jourdain. Donc, on continue. Donc, pourquoi Dieu nous donne les circonstances? Parce que Dieu est en train de nous enseigner. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Comme Anne, elle est allée chez Dieu pour épancher son cœur devant Dieu. David ici, mais il le savait, mais le seul fait de le sortir de notre être, de l'exprimer, ça allège déjà la charge. Et si Dieu réel pour nous, cette prière a beaucoup plus de pouvoir. Donc il ne faut pas perdre du temps. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi, tout Israël. Son fils avait volé le cœur de la population. Les gens avaient dit, bon, David, il est fini. Voyez le péché qu'il a commis. Dieu est contre lui. C'était facile. Combien disent à mon sujet, plus de salut. Mais voilà. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc, il est angoissé. Et il communique son angoisse à Dieu, même si Dieu le sait. Le Christ, il dit, le Père, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Mais il dit ça en ce qui concerne de dire des vaines paroles. Mais quand il s'agit d'une angoisse qui sort du fond de l'être, ce n'est pas des vaines paroles. Et il nous apprend que c'est comme ça qu'il veut que nous prions quand nous sommes dans l'angoisse, bien sûr. Il faut prier tout le temps, même quand on est dans la joie. Il faut louer les noms des dieux et danser de joie et de gratitude. Mais ici, on parle dans le contexte que le Christ nous dit, « Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès des dieux. » Voilà le péché qu'il a commis, il est fini. On suit Absalom. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. » Il savait que Dieu lui avait pardonné et qu'il lui avait promis. En descendant toujours sur son trône, « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. » Une fois qu'il a déchargé son angoisse devant Dieu, il est tranquille, comme Anne. Son visage avait changé. Donc David a dit, « Je mets mon cas devant toi, je suis fatigué, je me couche, je m'endors sous les ailes de l'Éternel. » Combien de fois, nous, on doit prier comme ça le soir quand on est angoissé. « Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Voilà, Dieu t'est réel. Réel pour eux. « Je ne crains pas les milliers de personnes. » Une fois qu'il a établi ses contacts avec Dieu, la crainte disparaît. « Qui m'assiège de toutes parts, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Pause. Donc, il y a beaucoup de psaumes, on va voir quelques-uns, pour ne pas faire le message trop long. Mais, comme je vous dis, le livre des psaumes est une compilation des cas semblables à celui de Anne et de ceux que David a subis. On va voir quelques exemples, mais je vous invite, chers sœurs et frères, si vous ne le faites pas souvent, comme je vous dis, ça m'a même servi pour que le français ne s'efface pas de ma mémoire, parce que je n'avais pas l'occasion de le pratiquer tous les jours, mais je lisais les psaumes, et Dieu s'est servi de ça, et maintenant, je peux venir vous parler en votre langue. On remercie Dieu pour ça, pour ce privilège que je ne méritais pas, mais je remercie Dieu pour ça. Par exemple, le psaume 18, c'est un chant de louange, après la victoire, après que Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Donc, il chantait à Dieu dans toutes les circonstances. Il était en communion intime avec Dieu. Mais nous allons voir, par exemple, des phrases sublimes que moi, je répétais et que peut-être vous pouvez utiliser dans des moments d'angoisse extrême, dans les épreuves de la vie. On se sent perdu, on se sent au bout, on se demande parfois qu'est-ce qui va arriver. Et ça m'est arrivé à moi, comme je sais qu'à chacun de vous qui avez subi des épreuves, il y a quelques mots que je répétais, mais je répétais chacun, ça me sortait du profond de l'être, du tréfonds de mon âme, des paroles qu'on trouve, par exemple, comme je vous dis, il y en a des multitudes d'exemples, il faut que j'en choisisse quelques-uns. Au chapitre 25 des psaumes, voici quelques paroles sublimes. Disons, on peut commencer au verset 14, psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel, quelle belle parole, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Pour craindre Dieu, il faut que Dieu soit réel pour nous, chers sœurs et frères. Et son alliance leur donne instruction. Alors voici, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Si on est angoissé, il faut établir cette communication, comme je vous ai dit dès le début. Il ne faut pas perdre du temps. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Vous savez, quand on est dans une épreuve, on est piégé. Il n'y a pas d'issue. On voudrait s'en débarrasser. On aimerait fuir, aller quelque part. Mais l'épreuve est là, ne peut pas s'en échapper. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On tourne les yeux vers Dieu, il fera sortir mes pieds du filet. Quand? Quand il va le décider, mais je suis en ses mains. Ça aide beaucoup, ça soulage l'âme quand on est angoissé. Car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi. Mais moi, je te regarde. Tu vas me faire sortir du filet quand tu voudras, mais je veux que je sache que tu m'écoutes. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Voilà ce que je vous disais. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre Israël de toute ses détresses. Puis comme ça, il y en a, et il y en a beaucoup d'exemples. Si vous voulez, on peut aller au psaume 55, qui est une situation un peu semblable, c'est avant sa fuite. Vous savez, les psaumes ne sont pas dans un ordre chronologique des événements, mais Dieu les a organisés en ce sens-là, pour une raison. Je ne comprends pas toute la raison, mais au psaume 55, David se trouve dans l'angoisse parce qu'il voit qu'une conspiration vraiment progresse contre lui. Au chef des chantres avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. Donc il exprime, Dieu connaît, mais il sort tout, il l'exprime devant Dieu. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'aurais séjourné au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Lisons un peu plus. Ils en font, verset 11. Jour et nuit, le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent pas ses places. Il voit une conspiration contre lui à Jérusalem. Ce n'est pas mon ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Et c'est le Christ lui-même qui a éprouvé ça avec Judas, qui l'a trahi. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cachais devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, c'est par Ahitophel. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison des dieux. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Nous allons voir que le Christ, il nous conseille de faire autrement dans la Nouvelle Alliance. Il a dit, vous avez entendu dire qu'il faut aimer ses amis, il faut haïr ses ennemis. Donc, nous allons voir que les conseils du Christ sont un peu différents pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Je vais un peu plus tard, un peu plus loin, et voilà, verset 23, chers sœurs et frères, verset 22, important, sa bouche, mais la guerre dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne sera jamais chancelé le juste. Et puis il y a une autre parole un peu plus haut, faut que je la cherche, au verset 16. Parfois le verset change chez Louis Segond parce qu'il commence à partir du premier, de l'entête du psaume. Ayez patienté avec moi, chers soeurs et frères. Verset 17, voici est ce qu'il fait. Chapitre 55 des psaumes, verset 17. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Voilà donc, la souffrance nous force à prier à Dieu constamment, trois fois par jour, comme le faisait David. Voyons deux ou trois exemples encore, chers sœurs et frères, et puis on verra d'autres applications des paroles sublimes du Christ. Par exemple, nous pouvons voir au chapitre 56, le psaume suivant, les paroles de David. Une fois encore, ici, il nous donne, par inspiration divine, les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Au chef des chantres sur colombe de térébinthe lointain. Hymne de David lorsque le Philistin le saisir à Gath. Souvenez-vous aussi de l'histoire. David avait tué Goliath. Il n'était jamais allé chez les Philistins. C'est après la mort de Goliath que Saül est devenu jaloux de David, et David se vit obligé à fuir du roi Saül, et il est allé se réfugier chez les Philistins pour que Saül ne le tue pas. Mais alors les Philistins l'ont reconnu, et ils ont dit au roi, ce n'est pas David celui-là. Ce n'est pas de lui qui chantait les femmes en Israël. David a tué des dix mille, et Saül... Il en a tué 1000. Donc, vous souvenez-vous que David, il s'est faim, comme au verset 30, au chapitre 34, c'est la même situation. Il a fait semblant d'être fou. Il laissait la salive couler sur sa barbe, puis il écrivait dans les portes. Et donc, le roi a dit, mais je n'ai pas assez de fou dans mon royaume, vous m'emmenez un autre fou. Donc, ils l'ont renvoyé. Et puis David a pu s'échapper parce que sans doute il aurait coupé en pièces les Philistins. Donc voilà, il était dans une situation angoissante. Vous pouvez voir, je vous dis, il y a tellement d'exemples de ces situations qui nous apprennent à toujours avoir recours à Dieu dans toutes circonstances. Vous pouvez comparer le chapitre 34 des psaumes, c'est la même histoire. Il raconte un peu la même chose. Au chef des chantres, je répète, hymne de David, lorsque le Philistin le saisir à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, voilà, un état d'esprit. Je suis dans la crainte. En toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Voilà. Au verset 12, un peu plus loin, vous lisez. Verset 12, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? Mais il fallait qu'il ait contact avec Dieu pour recevoir cette confiance en lui. Donc, nous pouvons lire chapitre 57, pour ne pas aller trop loin. Encore une situation absolument extrême, mes chers amis. Souvenez-vous que Saül venait avec l'élite de son armée, 3000 hommes de l'élite d'Israël contre David. Et David n'avait que 400 ou 600 hommes, donc ils étaient en toute minorité. tout ce qu'il a trouvé dans cette montagne au sud, en Engadine d'ailleurs, je viens de la Suisse, il y a un endroit en Suisse qui s'appelle Engadine, c'est intéressant, il y a le nom des Gades là-dedans, nous on croit que la Suisse c'est la tribu des Gades, et au centre géographique de la Suisse, il y a une vallée qui s'appelle Gadmental, la vallée des hommes de Gad. Donc c'est intéressant, les identités, un petit parenthèse là pour variation, les identités des peuples. Je me souviens en arrivant à Zurich quelques années avec mon fils, je vois écrit en l'entrée de l'aéroport, bienvenue à la capitale mondiale de la banque. Vous savez que le nom Gad signifie fortune. Et le nom Gad signifie aussi troupe, ça veut dire armée. Vous savez pourquoi le pape a une garde suisse? Ils étaient connus au Moyen-Âge comme les meilleurs, parmi les meilleurs guerriers de l'Europe. Donc ils sont des guerriers féroces. Et ils ont su quand même garder la paix. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais en petite parenthèse, c'est incroyable comme Dieu nous a fait comprendre des choses par l'intermédiaire de son Église à notre époque. Des connaissances merveilleuses pour affirmer la vérité que Dieu nous a donnée dans des différents points de vue, différents aspects. Donc, voici, David s'est trouvé dans une situation extrêmement angoissante. 3000 qui venaient le chercher. Il se cache dans une cave, dans une caverne. Je ne sais pas comment il le traduit ici. Au chef des chantres, au chapitre 56, sur Colombe de Térévente lointain, hymne de David lorsque le Philistin, non, c'est 57 que je lis, excusez-moi, ne détruit pas. Ce sont des psaumes qu'il a composés. Ça, c'est une étude intéressante. Pourquoi les titres des psaumes? Peut-être, je ne promets pas, parce que parfois je promets, je n'accomplis pas ma parole. Donc, on pourrait faire une étude, pourquoi il y a tous ces titres dans les livres des psaumes. C'est un livre qui m'a toujours fasciné. Hymne de David, je suis en train de lire, au début du psaume 57, lorsque se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Voilà, je vous ai dit, ce mot se répète tout au long du livre des psaumes. Il cherche un refuge, comme le Christ même l'a dit. Combien de fois, parlant de Jérusalem, je voulus te garder sous mes ailes comme la poule garde ses petits poussins. Tu n'as pas voulu. Donc Dieu nous offre un abri sous ses ailes. Si nous allons le chercher, pourquoi le Christ il nous invite? Venez à moi, venez vous réfugier en moi. Je vous couvrirai, je vais vous protéger, je vais vous donner du repos. David a bien compris ça. Et j'espère que tous ces exemples vont nous aider à améliorer et à intensifier notre relation avec Dieu. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Voilà. Jusqu'à ce que la calamité soit passé. Combien de temps on est accablé de problèmes? Les épreuves ne viennent pas seules, il paraît qu'elles viennent toutes ensemble. Et ça, ils font une pile au-dessus de notre tête, on se sent incapable.